En ce dimanche, le 29 mars 2020, je vous souhaite la bienvenue à notre culte en ligne comme à la maison. Bienvenue à l'église Paris Métropole. Aujourd'hui, c'est Médéric qui va nous conduire à partir de chez lui, bien sûr, qui va nous conduire dans la louange, dans la présence de Dieu. Bonjour Médéric, comment vas-tu?
Bonjour Christian, je vais bien, merci.
Et comment ça se vit de ton côté à la maison, le télétravail, ce confinement?
Eh bien, on adapte les activités et j'en profite aussi pour me reposer. Ça va? Ça va.
Eh bien voilà, on se réjouit vraiment. Dans un instant, on va se retrouver avec Médéric pour vraiment entrer dans la présence de Dieu, le louer, tout ça. Mais d'abord, quelques annonces très, très importantes sur la vie de l'Église. Je vous fais un petit topo de la semaine. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur le site Internet de l'Église, la chaîne YouTube aussi. Mais quelques annonces très importantes sur la vie de l'Église du lundi au samedi. Vous pouvez retrouver directement en ligne des exhortations, une pensée biblique, et je peux vous assurer, connaissant vraiment nos équipiers, que ces pensées ont été cherchées auprès du cœur de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu. Donc chaque matin, une pensée biblique d'à peu près quelques minutes, 8-10 minutes, est publiée. Ça, c'est du lundi au samedi. Il y a aussi le lundi et le vendredi à 21h, il y a un JAP live qui marche à fond, suivi par des centaines de jeunes. On est vraiment très, très encouragés. Des jeunes un peu partout qui viennent et qui se mettent en live, des très très bons moments avec Pasteur Nico, avec Pasteur Leandro et tous leurs équipiers. Vraiment, ils font vraiment, je voudrais aussi prendre le temps de les remercier. Si vous avez remarqué, on a travaillé très très fort maintenant depuis plus de 14 jours. Dès qu'on a vu les choses arriver, toute l'équipe pastorale et le conseil d'administration, on s'est vraiment attelé, on s'est mis à la tâche vraiment pour repenser l'Église, rebondir, essayer de vivre l'Église différemment en ces moments vraiment particuliers. Donc, merci vraiment à tous les équipiers aussi de JAP pour leur super belle réactivité. Ça, c'est lundi et vendredi JAP. Mardi, 19h, c'est notre culte de mi-semaine, nos temps de prière, nos temps aussi d'études bibliques dans la parole. C'est un peu différent de d'habitude. Mais mardi, on se retrouve aussi à 19h pour un live. Mercredi, c'est un cours biblique qui est offert par le pasteur Samuel. Donc, on se réjouit. C'est un cours sur les essentiels de la foi. En ces temps que nous vivons, peut-être que vous avez aussi des gens autour de vous qui sont tout nouveaux dans la foi, qui se posent des questions, qui peut-être n'ont pas vraiment d'arrière-plan chrétien. Ce sont de très, très bons moments. On revoit toutes les bases. Et vous savez, quand on est ébranlé dans ces moments comme nous vivons aujourd'hui, on a besoin vraiment de retourner à nos fondamentaux, à nos bases, de savoir en qui nous croyons et pourquoi nous croyons en lui. Donc ça, c'est mercredi soir à 19h et c'est très intéressant. Je vous invite à le suivre, c'est déjà très bien suivi, des centaines de personnes suivent en ligne, en live, mais c'est très bien suivi. Et ce qui est très intéressant de ce cours avec Pasteur Samuel, c'est qu'il y a de l'interaction, vous pouvez poser des questions, il y a de l'échange, vraiment c'est très 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 convivial. Jeudi soir, on a nos visioconférences, les différents départements de l'église, les campus, les serviteurs qui se retrouvent ensemble. Samedi soir aussi, il y a des visioconférences et dimanche, bien sûr, le culte. Donc j'aimerais vraiment vous inviter à ne pas décrocher, comme vous le faites déjà tellement bien, à rester ensemble dans cette vie d'église. On pense que c'est pour un temps, on sent, moi le premier, ça commence à être long ce confinement, mais on veut rester ensemble dans l'unité, on veut vivre l'église avec vous. Donc vraiment, je vous encourage, alors qu'on dispose maintenant nos cœurs à aller dans la présence de Dieu avec Médéric, je vous encourage personnellement, si vous avez besoin de prière, surtout n'hésitez pas, écrivez-nous, on voit les requêtes de prière qui rentrent, tout ça, via Messenger, via... Les différents réseaux sociaux, le site web de l'église, tout ça, les gens nous écrivent, demandent la prière, n'hésitez pas. On a aussi tout un très, très beau ministère à l'église d'intercesseurs. Ce sont des groupes d'intercesseurs qui se réunissent sur les campus. Tous les dimanches, ils prient, ils intercèdent pendant les campus. Ça se fait depuis des années. Et vraiment, c'est tout à leur honneur de voir leur consécration à la prière. Si vous avez besoin de prière, vous envoyez votre requête de prière via les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Nos équipiers de la com les récupèrent, les envoient aux intercesseurs et on priera pour vous. Vous avez besoin d'un entretien, de conseils, d'accompagnement. Il ne faut surtout pas hésiter. J'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vous isoler, à ne pas vous replier sur vous-même. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de s'isoler, en train de sombrer, qui ne va pas bien, n'hésitez pas, contactez-nous. On va prier pour lui, encourager aussi cette personne à aller vers nous. Il y a des gens qui ont simplement besoin d'un coup de téléphone, de prière, d'accompagnement en ces moments difficiles. Donc vraiment, n'hésitez pas. On est là vraiment pour vivre l'Église ensemble dans ces circonstances vraiment particulières. Merci pour vos dîmes et vos offrandes. Sachez que l'Église Paris Métropole continue à honorer tous ses engagements financiers en cette période. On vous remercie dans les dernières semaines vraiment pour les... La seule façon aujourd'hui, c'est à travers les virements. Pour l'instant, il y a quand même des gens qui envoient peut-être des chèques, tout ça, mais on est assez bloqués pour l'instant. Mais merci, je veux juste vous dire merci en tant que pasteur principal pour votre fidélité parce que nous continuons à honorer tous nos engagements financiers. Vous savez aussi qu'on nous supportons des missionnaires, plusieurs missionnaires, et on veut vraiment continuer à les soutenir en ce moment. On soutient aussi plusieurs œuvres, donc on veut continuer. Donc, merci pour vos dîmes et vos offrandes. Le RIB de l'Église est disponible sur le site internet de l'Église, monégliseaparis.fr. Il y a en haut à droite, vous cliquez, faire un don, vous allez trouver le RIB et vous pourrez envoyer votre dîme et votre offrande. Ça, c'est pour les gens de l'Église. Si vous êtes visiteur, voilà, on est juste heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. On veut prier et puis on va passer à ce temps de louange avec Médéric. Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es vrai. Tu es fidèle, Seigneur. Nous comptons sur toi. Et Seigneur, on peut être unis de cœur ensemble. L'apôtre Paul le dit dans ses épîtres, il dit, je ne suis pas présent physiquement avec vous, mais en esprit, je suis avec vous. En d'autres mots, mon cœur est uni à vous. Et Seigneur, nous savons que tu n'es pas limité à un bâtiment, à une adresse géographique, Seigneur. Tu es là, tu es omniprésent, Seigneur. Tu es partout. Et Seigneur, tu es avec chacun de nous aujourd'hui, en ce dimanche, le 29 mars. Tu es présent. Là, Seigneur, tu dépasses l'écran, Seigneur. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Tu connais chaque situation, chaque personne aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que tu inspires le pasteur Pierre vraiment pour amener une parole divine de Dieu, du ciel, une manne céleste aujourd'hui pour quelqu'un qui en a besoin, Seigneur. Alors, Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, tu connais chacun de nos besoins, Seigneur. Et comme nous disons que c'est un culte, donc on n'est pas là pour faire un spectacle, on n'est pas là non plus pour regarder comme une télésérie ou quelque chose qui serait simplement diffusé sur Internet. Seigneur, nous sommes là pour te rendre un culte aujourd'hui. Et Seigneur, tu dis dans ta parole, tu dis, approchez-vous de Dieu, approchez-vous de lui et lui s'approchera de vous. Alors je prie aujourd'hui que ceux qui sont là devant un écran fassent plus que d'être devant un écran, qu'ils puissent prendre le temps de s'approcher de toi dans les prochaines minutes avec Médéric et avec Pasteur Pierre. Vraiment, nous ne voulons pas être des spectateurs, nous voulons être participants, Seigneur, à ta parole aujourd'hui. Alors vraiment, tu nous conduis, Esprit de Dieu, nous savons que tu règnes sur l'Église Paris Métropole, c'est ton Église, c'est ton épouse, Seigneur, et personne ne peut t'arrêter, personne ne t'arrêtera de bâtir ton Église. Alors nous croyons que même si nous sommes loin peut-être les uns des autres physiquement, tu nous bâtis spirituellement comme des pierres vivantes, les uns avec les autres, nous nous édifions. Et aujourd'hui, nous voulons croire que ce culte sera plus que ce que notre entendement peut comprendre. Ce culte, dans le nom de Jésus, va contribuer par la puissance du Saint-Esprit à ce que des vies changent pour toujours. Rien ne dépassera jamais la beauté d'une vie changée par Jésus. Et nous voulons croire aujourd'hui, Seigneur, qu'à travers ce culte, à travers cette louange, tu te sers de Médéric, tu te sers de Pasteur Pierre aussi, Seigneur, pour amener une parole de vie, afin que des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, puissent s'approcher de toi, Seigneur, et que leur vie change pour toujours, Seigneur. Tu veux relever celui qui est abattu, celle qui est dans la difficulté, Seigneur. Tu as une parole pour celui qui est perplexe et qui se pose des questions aujourd'hui. Seigneur, tu es là et tu seras, tu es fidèle. Présentement, en cet instant, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Si vous aimez Jésus, vous dites, vous avez le droit de dire amen, même si je vous entends pas. Amen. Et on s'approche vraiment de Dieu dans la louange. Moi, le premier, tous ensemble, avec Médéric et Pierre, par la suite, va nous apporter le conseil de Dieu. Excellent culte. Très belle journée ce dimanche. Merci.
Alléluia. Amen. Ce matin, on va commencer par proclamer la toute-puissance de notre Dieu. Combien il est grand et insondable. Alléluia. Et infinie.
Thank you. viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile,
merci mon Jésus pour ce temps de louange que nous avons. Merci parce qu'il nous a conduit dans ta présence. Merci de bien vouloir renouveler force de Méléry qui nous a conduit dans ce temps. Merci parce que tu es là, Seigneur, tu es présent. Et tu n'es pas limité par nos propres limites, nos limites physiques, comme le temps ou l'espace. Alors que je suis là, Seigneur, tu es avec mes frères et sœurs de l'autre côté de leur écran. Merci parce que tu es ce Dieu-là, parce que tu es ce Dieu qui est partout et présent partout à la fois. Merci mon Père de bien vouloir bénir ta parole maintenant, de venir m'aider dans l'exercice de l'exposition de ta parole. Je te prie vraiment de donner du sens à ce que je vais partager et de toucher les cœurs alors que nous vivons un contexte particulier. Merci, mon Dieu, de venir bénir au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver chez moi, à la maison, pour ouvrir la parole. Nous vivons des temps vraiment spéciaux, nous vivons une période vraiment particulière. Et j'ai vraiment à cœur, au nom de toute l'équipe pastorale, nous avons eu à cœur, en tout cas avec toute l'équipe pastorale, de prier pour chacun d'entre vous. Nous vivons tous des situations très différentes. Nous savons qu'au milieu de nous, des frères et sœurs sont malades. Nous prions pour vous, pour que Dieu vous renouvelle, pour que Dieu vous protège. Nous nous tenons auprès du Seigneur parce que nous avons un Dieu qui agit et qui guérit. Amen. Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui vivent mal le confinement. En effet, c'est peut-être votre cas, vous qui m'écoutez, mais nous ne sommes pas tous à la même enseigne quant au confinement, et nous savons qu'il peut se passer des choses terribles et tragiques. Nous croyons que notre Dieu peut vous protéger, qu'il entend le malheureux qui crie à lui, et il y a cette certitude sur notre cœur que Dieu peut venir à votre secours. Enfin, je voudrais avoir une pensée pour tous nos bien-aimés qui servent dans les hôpitaux aujourd'hui, qui sont pas forcément avec nous, mais nous prions pour vous. Nous nous tenons Dieu pour vous, vous qui êtes sur les soins des malades, vous qui vous occupez des malades dans les hôpitaux, vous qui êtes médecin, peut-être infirmier, infirmière ou être soignant. Vraiment que le Seigneur vous renouvelle, que Dieu vous fortifie et vous garde et vous protège. Peut-être vous êtes comme moi, mais quand nous vivons des temps difficiles, et c'est sans doute une très bonne chose, nous nous raccrochons à des versets, à des textes qui nous font du bien. J'ai posté sur Facebook dernièrement une petite annonce qui demandait à certains de partager les versets qui leur tenaient à cœur en fonction du contexte que nous vivons. Et j'aimerais vous partager quelques-uns d'entre eux que je trouve pertinents et qui pourraient vous faire du bien. Quelqu'un a partagé le psaume 121. Que nous connaissons tellement bien, où c'est David qui parle « Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ?» Et le texte poursuit, dit « Mais le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Et ce passage est tellement beau et nous ramène à ce que Dieu est capable de faire. Ce Dieu si grand peut venir à notre secours, peut venir au secours de nos difficultés. Je connais pas tes difficultés aujourd'hui. Je sais pas quelle montagne ça représente, quelles sont les situations dans lesquelles tu te trouves, parce que nous vivons des temps difficiles. Et ce passage nous ramène à cette réalité. Celui qui était avec nous, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, et c'est celui qui veut te secourir. Un deuxième passage que je trouve tellement beau, c'est Marc chapitre 5. C'est l'histoire de Jaïrus. Vous connaissez ce passage très bien, où Jaïrus, à un moment donné, a sa fille qui est en train de mourir, puis il y a un message qui revient de chez lui, qui lui dit « Mais Jaïrus, n'importe où, ne plus le mettre, ta fille est morte. » Et là, on sent Jaïrus s'effondrer complètement. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est cette parole de Jésus. Parole que je pourrais te dire et partager. Ne crains rien, mais crois seulement. Nous vivons des temps particulièrement difficiles. Et peut-être tu reçois et tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, elle est en train de t'effondrer littéralement. J'aimerais te dire de la part de Jésus, crois seulement. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, il prend soin de toi. Un autre passage qui est un peu dans la même continuité, un passage qui a été partagé, c'est Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. Et le texte poursuit, « Ne promène pas de regard inquiet. » Waouh. Où qu'on puisse poser nos regards en ce moment, soit on entend de mauvaises nouvelles, soit on est dans nous-mêmes pris dans un tourment de mauvaises nouvelles. Et le texte poursuit, ne promène pas de regard, car je suis ton Dieu. Amen. C'est tellement important de savoir que Dieu est là, que Dieu est avec nous, que Dieu est là pour nous soutenir. Enfin, j'aimerais juste partager un dernier texte, Philippiens chapitre 4, 13. On est confronté à nos propres limites. Peut-être c'est le confinement, peut-être c'est les situations que tu entends, peut-être c'est la maladie aujourd'hui qui t'amène à dire « j'ai plus de force, j'y arrive plus, c'est trop dur ». Et ce texte dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Là où nos forces s'arrêtent, lui prend le relais. Et là où nous sommes en face de nos impossibilités, le Seigneur nous dit « mais moi je vais prendre le relais ». Je vais te soutenir, tu peux tout parce que je suis celui qui te fortifie. Amen. Dans ce contexte-là, de ces passages qui font du bien, j'aimerais vous partager le mien. Celui que Dieu a mis sur mon cœur pendant cette période-là. Et alors que je réfléchissais à ce que je voulais partager, le psaume 23 est venu fort sur mon cœur. Permettez-moi simplement de le partager avec vous, de l'ouvrir avec vous, si vous voulez bien. Donc, voilà ce qui nous est dit dans le psaume 23. Psaume écrit par David. C'est important de le comprendre. Alors, il est difficile de savoir dans quel contexte David a écrit ce livre, mais ce chapitre. Mais certains pensent que c'est pendant la révolte d'Absalom. Peu importe. Mais voilà le texte en lui-même. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Je ne manquerai de rien. C'est tellement beau d'entendre ça et c'est tellement rassurant d'entendre ça quand on voit l'état de nos supermarchés, là où nous allons faire des courses. Peut-être que vous avez vu ça. Je ne manquerai de rien, c'est tellement bon de ressasser ça sur son cœur. Mais le texte poursuit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'est peut-être ton cas ce matin, le texte poursuit, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Le Seigneur est là avec toi. Et l'ombre de la mort n'est pas l'idée de la mort en elle-même. C'est l'idée sans doute de ce qu'est une ombre. Oui, la mort frôle. Oui, la mort est autour de nous. Oui, en effet. Mais je ne crains rien car le Seigneur est avec moi. Amen. Le texte poursuit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et notez bien le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, ou en fonction des versions que vous avez, c'est en face, mais ça pourrait être en présence de mes adversaires. Et le texte poursuit, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le Seigneur m'a attiré mon attention sur le verset 5. Je pourrais pas tout exposer ce matin et ce serait tellement beau de pouvoir le faire, mais non, ça sera pas possible. Mais vraiment, le Seigneur a attiré mon attention sur le verset 5. Le verset 5 tranche avec tout le reste. Le verset 5 est tellement différent du reste. Permettez-moi trois explications à cela. La première, c'est que dès le départ, David est dans une explication, l'Éternel est mon berger. Et nous sommes dans un rapport berger-brebis. Le berger nous conduit dans le verre de pâturage, prend soin de nous, s'occupe de nous, il nous conduit, il nous dirige, il est ce berger, jusqu'au moment où on arrive à se fermer verset 5, où David dit, tu dresses devant moi une table en présence, en face de mes adversaires. Comprendrez bien que une brebis attablée, ça sera un peu compliqué, mais on sent en effet que dans ce passage-là, on change de contexte, on change d'atmosphère, on change d'univers. Et c'est tellement important de le comprendre. Et c'est ce qui me fait dire que ce verset ressort par rapport aux autres. Deuxième chose qui est important à comprendre, c'est que pendant tout le long, tout au début du passage, David s'adresse à nous. Il dit, il nous présente l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Et il s'adresse à nous. Je ne manquerai de rien. Et il poursuit dans ses détails. Il me dirige et il nous parle à nous. Jusqu'au moment où, lorsque les choses se corsent, et dès le verset 4, les choses se corsent. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort. David change de d'interlocuteur. Il s'adresse plus à nous, mais il s'adresse à Dieu. Il parle à Dieu. Il lui dit, oui, ta houlette, ton bâton me rassure. Et c'est là qu'il poursuit. Et au verset 5, c'est encore plus tranchant par rapport. Tu dresses une table en face de moi, en présence de mes adversaires. David n'est plus en train de s'adresser à nous, mais il s'adresse à Dieu. Et j'aime à penser que lorsque les choses se corsent, mes frères et sœurs dans nos vies, lorsque nous vivons des choses difficiles, notre Dieu est un Dieu de proximité. Notre Dieu veut être au plus près. Et David l'avait ressenti. Quand les choses vont pas bien, mes frères et sœurs, on est un peu comme David. On n'est plus dans l'exposition, mais on se réfugie auprès de l'Éternel. Et on sent que David est en train de faire le vide autour de lui. Et il se rapproche de Dieu. Le passage poursuit, la troisième raison qui m'amène à dire que ce passage est particulier, et le verset 5 est spécial, c'est le mot employé par David. David parle d'une table. Alors on comprend l'idée que David, en effet, était un berger. Et tout le début est en lien avec son expérience du fait qu'il a été berger. Mais dans un contexte de guerre, David était aussi un homme de guerre et a sans doute été plus un homme de guerre que ce qu'il a été un berger. Et quand David parle de ses ennemis, de ses adversaires qui sont autour de lui, qui sont là présents, je suis surpris du mot que David emploie. David, en tant qu'homme de guerre, Et c'est ce que Dieu dit de lui d'ailleurs. Il parle de David comme un homme de guerre, comme un homme de sang, comme un homme qui a fait de nombreuses guerres. Moi, je suis surpris du vocabulaire que David emploie. En effet, face à ses ennemis, entouré en présence de ses ennemis, j'aurais pensé que David aurait pu dire « Tu dresses, ô toi Éternel, tu dresses une épée flamboyante pour me protéger. Tu dresses une tour, un rempart en présence de mes adversaires, tu les éloignes. » Non, David va employer une table. C'est déconcertant parce que, franchement, une table dans la bouche d'un militaire, dans la bouche d'un stratège militaire, c'est étonnant, n'est-ce pas? Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que tu voulais dire dans ce passage? Qu'est-ce que tu voulais mentionner? Qu'est-ce que tu voulais nous apprendre dans ce passage? Qu'est-ce que David voulait nous dire? Alors, j'aimerais vous inviter avec moi à passer à table et à découvrir ce que le Seigneur a voulu dire. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés comme moi et peut-être de prime abord, vous êtes surpris de découvrir en face de moi une table. Une table, pas simplement une table, mais de découvrir en face de moi une table avec des couverts, des assiettes et des verres. Et je comprends que vous puissiez être surpris, sauf que dans ce texte que nous avons lu, le psaume 23, verset 5, c'est de ça dont David est en train de parler. Il est en train de parler d'une table que l'Éternel dresse. Tu dresses devant moi une table. Et cette table, c'est une table où on mange et c'est de ça dont David est en train de nous parler dans ce texte. Il est en train de parler d'une table avec des mets, avec de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se restaurer. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que ma table, présentement, ne ressemble pas du tout à la table que pouvait être celle de David. En effet, en Orient, ces tables n'existaient pas, on ne mangeait pas sur ce type de table, on mangeait presque à même le sol ou assis sur des coussins et on mettait au centre d'immenses plateaux cette fameuse table sur laquelle on venait déposer de la nourriture, sur laquelle l'abondance du festin était déposée et chaque convive s'installait autour de cette table et mangeait. Prenez ce qu'il avait besoin. Alors, si la table est physiquement est très différente, l'idée est la même. David, dans ce texte, fait référence à une table que l'Éternel dresse devant lui, un repas que l'Éternel dresse devant lui pour qu'il puisse se nourrir, pour qu'il puisse se restaurer. Mais l'idée va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas juste simplement une table, ce n'est pas juste non plus un simple repas que l'Éternel a préparé, mais l'idée va plus loin. David était un roi qui est connu pour son intimité. C'était un roi qui aimait avoir les siens autour de lui. Souvent, il y fait référence d'ailleurs dans la Bible, à la table du roi, à la table de David. Et David avait tous ceux qu'il aimait à cette table. Il aimait partager ce temps. Il avait ses enfants, ses fils, ses filles, ses épouses. Tout le monde était là et David partageait ce temps avec eux. Il mangeait avec eux. Donc l'idée n'est pas simplement de manger un repas que l'Éternel a préparé pour nous, mais c'est de manger un repas avec lui. De manger à la table du roi. Manger à la table du roi, c'est pas simplement manger le repas que le roi a préparé pour nous, mais c'est manger avec le roi. Il est un passage que j'aime énormément dans l'histoire de David, c'est l'histoire de Méphibosheth, le petit-fils de Saül, fils de Jonathan. Et il a plu à un moment donné à David de restaurer Méphibosheth. Méphibosheth était perclus des deux pieds, il y a toute une histoire. Il a vécu reclus, caché, parce qu'il avait peur de mourir. Et un jour, David a décidé de restaurer Méphibosheth. Et alors que Méphibosheth ne pense pas ça possible, David va le restaurer complètement. Mais il termine la restauration par ce texte juste extraordinaire. Tous les jours, Méphibosheth mangea à la table du roi. Et comprenez, c'est dans la présence du roi. Ce n'est pas juste manger ce que mangeait le roi, c'était manger avec le roi, c'était manger avec lui. Et j'aimerais vous rappeler cette réalité, Dieu aime prendre du temps avec vous. Dieu aime partager du temps avec vous. Dieu aime autant entendre, partager, manger et vous donner à manger que tout le reste. Dieu veut prendre ce temps avec vous. Dieu aime ce temps avec vous. Sauf que dans ce passage-là, il y a tout un contexte qui m'amène à dire que c'est pas si simple. Et comprenez, le texte dit, Dieu dresse une table, cette image de la relation, cette image du partage, cette image de la joie d'être ensemble, cette image de l'échange. Et ça, c'est ce que nous avons tous envie de vivre, peut-être à l'image de ce que Zachée a vécu avec Jésus, qui est venu dans la maison de Jésus, qui est venu dans la maison de Zachée et qui a partagé un repas avec lui. Oui, Seigneur, je veux vivre ça avec toi. Sauf que le contexte de ce passage est bien différent. C'est pas un contexte de paix. Dieu dit, je dresse devant toi une table, en présence, en face de tes adversaires. Alors, permettez-moi d'étayer ma réflexion en vous amenant dans ce contexte, dans le passage, dans ce qui est décrit. On est sur un champ de bataille.
On est en train d'affronter des ennemis innombrables. Ils sont tous, ils viennent de droite et de gauche. Et on est assailli peut-être de mauvaises nouvelles. On est assailli de choses qui nous font du mal, d'informations qui nous font pas bien. Peut-être comme tout à l'heure j'ai expliqué, on promène nos regards et puis c'est l'inquiétude qui nous gagne. Et dans ce contexte-là, Dieu arrive et nous dit, attends, je vais dresser une table. Ah bon, Seigneur, tu veux dresser une table? Mais là, franchement, c'est vraiment pas le moment. Non seulement j'ai pas de temps, mais je peux pas. Je t'avoue que même là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je suis stressé, j'ai plus faim, j'arrive plus à rien à avaler. Le stress me noue l'estomac. Et là, toi Seigneur, tu viens me parler, tu me dis, prenons un temps pour manger, faisons un break. Mais regarde, ils arrivent de tous les côtés. Ils sont là pour me détruire. Ils sont là pour m'arracher. Ils sont là pour m'écraser. Et peut-être t'es assailli comme ça de mauvaises nouvelles. Et puis là, moi, je te parle de prendre un temps avec Dieu, de manger avec Dieu, d'échanger avec Dieu. Alors, on pourrait peut-être même dire au Seigneur, tu vois, ta proposition là, franchement, moi, je préférais que tu dresses devant moi une muraille, une forteresse, une tour forte, histoire que je me réfugie dedans. Et si tu veux, derrière, on mange ensemble. On prend un temps ensemble. On va se faire du bien ensemble, Seigneur. Ce sera juste génial. Mais là, tout de suite, là, non, je peux pas. J'arrive pas. De toute façon, je peux rien avaler. Ce texte nous parle de relations d'intimité et de profondeur quand tout va pas bien. Quand tout peut-être semble s'effondrer autour de nous. Et j'aimerais peut-être arriver à ma réflexion, à ce que j'ai envie de te partager ce matin. Pourquoi un repas au lieu d'une tour forte? Pourquoi une table au lieu d'une muraille? Pourquoi manger quand nous nous sentons oppressés? David était un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme d'intimité. Et David avait compris une chose dans ses temps d'intimité avec Dieu, c'est qu'il avait deux sortes d'ennemis. Il avait des ennemis qui en voulaient à son intégrité physique, et puis il avait des ennemis qui en voulaient à son intégrité spirituelle. Ces ennemis qui en voulaient à son intégrité physique, clairement, nous pouvons les repérer dans les Écritures. Ils étaient les Philistins, les Amalécites. Ils ont été pendant un temps Saül lui-même. Ses propres fils ont été ses ennemis qui en ont voulu à son intégrité physique. Mais David avait compris qu'il y avait un autre ennemi. Un ennemi plus subtil, un ennemi certainement peut-être plus dangereux encore, qui en voulait à son intégrité spirituelle. Et cet ennemi, David l'a souvent exprimé, l'a souvent partagé, et il l'a partagé au travers d'une histoire. Et j'aimerais peut-être prendre cette histoire avec vous, cette histoire que l'on trouve dans 1 Samuel chapitre 30 verset 1er. Dans ce passage-là, il est fait référence d'une attaque des Amalécites qui vont attaquer le camp de base de David. David n'est pas encore roi à cette époque, mais c'est à Tiglath que David a trouvé refuge. Et David est parti en campagne. Et 3 jours plus tard, il revient sur son camp, là où il y avait sa famille, ses femmes, ses enfants, où il y avait toutes les familles qui étaient avec lui. Et David revient, et quand il revient, Tiglath est ravagé. L'ennemi est passé par là, tout est brûlé et les femmes et les enfants ont été faits prisonniers. Et là, David vit un temps d'épreuve considérable où il a un ennemi physique, clairement les Amalécites, qui essaient de s'en prendre à lui, à sa famille, à ses biens, à tout ce qu'il a. Et dans ce moment-là, il y a un autre ennemi qui vient se rajouter, qui vient se greffer. Et verset 4, il est dit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » C'est dire le désarroi et dans quelle ambiance spirituelle David se trouve. Il a tout perdu. C'est dur, c'est extrêmement dur. La tristesse s'empare de son cœur, mais ça va plus loin. Ces deux femmes, en effet, ont été faites prisonnières. Mais verset 6, « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. » Waouh ! Ses propres amis, ceux qui l'ont suivi, veulent en vouloir à sa vie. Et là-dessus, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David vit une angoisse, d'une part parce que les siens veulent se débarrasser de lui, mais parce que lui-même est assailli, lui-même est oppressé. Et à ce moment-là précis, David se nourrit de choses qui sont en train de descendre son âme, de choses qui sont en train d'atteindre son intégrité spirituelle. C'est en train d'attaquer sa confiance en Dieu. C'est en train d'attaquer sa foi en Dieu. Il est attaqué de toutes parts. Il est environné d'ennemis physiques, mais il est aussi environné d'ennemis spirituels qui sont en train de manger à sa table. David est en train de manger les reproches qu'on est en train de lui faire. On lui dit, on n'aurait jamais dû te suivre. David est en train de manger toutes ces paroles négatives qu'il reçoit et qu'il entend. Associé aussi à ce qu'il vit intérieurement, jamais tu reverras tes enfants, jamais tu t'en sortiras de cette situation. Et peut-être certains d'entre nous qui m'écoutent sont dans cette situation, sont pris dans ce flot d'ennemis qui viennent vous entourer, qui viennent vous briser, qui viennent vous anéantir dans votre courage et qui sont en train d'attaquer votre intégrité spirituelle. Et peut-être en ce moment, c'est ce que tu vis au travers de la maladie, au travers du coronavirus, mais au travers des circonstances que nous sommes en train de vivre. Peut-être c'est ton travail que tu es en train de perdre. Peut-être c'est ta situation financière qui est en train de se détériorer. Tu vis cette oppression spirituelle qui est autour de toi. Et là, Dieu dit, viens manger avec moi. David est oppressé de toutes parts. Et comprenez cette situation-là. Elle est clairement définie dans ce passage-là où les siens en veulent à sa vie, où ses pensées sont en train de l'attaquer et où sa foi est en train de vaciller. Cet ennemi est extrêmement dangereux. Cet ennemi amène l'angoisse dans le cœur de David. Et ce que j'aime dans ce passage-là, Siglad, c'est le moment où David va découvrir que Dieu prépare une table en présence de ses adversaires. C'est le moment où David va comprendre qu'il peut vivre autre chose. Et alors qu'il est prisonnier, qu'il est pris dans cette angoisse, qui nous éloigne par moments même de la présence de Dieu, David va dire, et j'aime tellement ce passage, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je ne sais pas quelle situation tu passes et je ne sais pas quel désarroi dans lequel tu es. Mais j'aimerais juste t'inviter à considérer, comme David, de prendre un temps avec ton Dieu, de prendre un temps avec ton Seigneur. Dieu a préparé un repas pour toi, mais ce n'est pas simplement qu'un repas, Dieu a préparé un rendez-vous avec toi. Il veut échanger avec toi, il veut partager avec toi, il veut que tu lui ouvres son cœur. Et peut-être t'es pris depuis le début de tout ce qui se passe dans le feu de ce que tu as fait, dans la pression de cet ennemi spirituel qui est autour de toi, qui essaie d'anéantir ton âme, et tu es pris d'angoisse parce que le contexte est en train de t'étouffer spirituellement. J'aimerais te dire qu'environné là, de tous ces ennemis qui sont là, Dieu a préparé une table, un festin pour toi. Dieu a préparé un repas pour toi. Le défi spirituel est maintenant de décider de dire, Seigneur, maintenant là, je vais rentrer dans ma chambre. Je vais fermer ma porte. Et là, dans ce lieu secret, mon Dieu, je vais prendre un bon temps avec toi. Où tu vas parler à mon cœur, où je vais te parler et où tu vas venir rassasier mon âme. Mon frère, ma sœur, ce texte, c'est une promesse pour celui qui est environné d'ennemis. Pour celui qui est environné d'adversaires qui essayent d'atteindre ton intégrité spirituelle. Et alors que ses partisans, tous ceux qui travaillent à David, font pression sur David pour que David fasse quelque chose, pour que David se mette en marche. Peut-être David avait tout un tas un brouhaha ambiant d'ennemis qui en voulaient à sa vie. David va fermer la porte. Et il nous est dit dans ce passage, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. J'aimerais t'encourager à comprendre, un, Dieu a préparé une table en présence de tes adversaires pour nourrir ton âme, pour restaurer ton âme, pour que ton âme reprenne courage. Et j'aimerais juste t'inviter à ne pas sous-estimer la puissance de cette table, parce que c'est la deuxième chose la plus importante dans ce texte. Dieu pourrait, et tu aimerais que Dieu élève une tour forte, tu aimerais que Dieu te mette à l'abri, que Dieu te protège, mais ce n'est pas ce qui est dit dans ce texte. Dieu ne va pas te préserver des ennemis, des adversaires qui sont là. Par contre, au lieu de dresser une muraille autour de toi, il dresse une table sur laquelle tu vas pouvoir te nourrir. Et Dieu a une pensée pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dieu a quelque chose à te donner. Et alors que tu vas fermer la porte de ta chambre et que tu vas te retrouver dans la présence de ton Dieu, alors que tu vas faire taire le brouhaha ambiant de ces ennemis qui en veulent à ta vie, autant spirituel que peut-être physique, Dieu va commencer à distiller, à parler à ton cœur, parce qu'il a dressé en présence de tes amis, une table pour toi, un festin, de quoi nourrir ton âme, de quoi encourager ton âme, de quoi fortifier ton âme. Alors ne promène pas des regards inquiets, mais fais confiance à ton Dieu. La dernière chose que j'aimerais partager, c'est quant au fait que tu pourrais, ce matin, négliger la puissance du repas que Dieu a pour toi. J'aimerais juste te rappeler deux choses qui sont importantes. Une chose qui est juste extraordinaire, c'est que l'une des plus belles victoires d'Israël, elle a été remportée au travers d'un repas, le repas de la Pâque. Alors qu'Israël est prisonnière des Égyptiens, alors qu'il y a toute une série d'épreuves et de choses qui sont passées, de plaies, la neuvième plaie passe par en effet cet ange de la mort, mais aussi passe par un repas que Dieu va initier. Et c'est le repas de la Pâque. Et ce repas va être la clé de la délivrance d'Israël. C'est à la suite de ce repas qu'Israël va pouvoir sortir d'Égypte. Et c'est sans doute l'une des plus belles victoires d'Israël. Après des années et des années d'esclavage, Dieu va enfin sortir son peuple grâce à une table qu'il va dresser pour ses enfants, en présence de ses adversaires. Et cette table... c'est juste déconcertant, mais c'est au travers de ce repas qu'Israël va vivre l'une des plus belles victoires. Et j'aime tellement ce texte parce qu'il est dit, mais arrête-toi et laisse Dieu faire. Regarde ce que Dieu va faire. Et dans ce passage-là, je voudrais juste t'inviter à ne pas mépriser, à ne pas sous-estimer la puissance de cette table que Dieu a préparée pour toi. La dernière table que Dieu a préparée pour toi, c'est la croix. Et en effet, ce jour-là, le jour où Jésus va mourir sur la croix, il va instaurer la Sainte-Cène. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre cette Sainte-Cène dans toute sa globalité, dans toute la puissance qu'elle représente. En effet, elle représente Jésus sacrifié sur la croix. En effet, elle représente le sang de Christ qui a coulé, le corps de Christ qui a été brisé. Mais cette table est une puissance, mon frère, ma sœur. Et alors que tu es pris et entouré d'ennemis qui en veulent à ta vie, qui sont oppressifs et qui t'empêche de discerner les choses comme tu dois, peut-être prends un temps ce matin, dans la présence de ton Dieu. Prends un temps, ferme la porte, prends le pain, prends le vin, parce qu'on ne peut pas le prendre ensemble ce matin. Prends le vin, prends le pain, et réalise ce que tu es en train de vivre. Réalise que cette table, elle est dressée, en présence de tes adversaires, en présence de tes ennemis, et qu'elle peut être une source de puissance, de délivrance. En te rapprochant de la croix, tu participes à ce repas, à cette table que Dieu a dressée pour toi. Et Dieu mange avec toi, et Dieu est avec toi, et il partage avec toi. Et dans ce temps d'intimité, j'aimerais juste t'encourager par la foi à réaliser qu'il va se passer des choses. Que Dieu va venir à ta rencontre, et que Dieu peut, au travers de ce temps, restaurer ton âme. Peut-être comme il a été le cas, tu peux reprendre courage. Parce que Dieu va mettre sur ton cœur une parole, parce que Dieu va donner une nourriture spirituelle à ton âme dont tu as besoin. Ce matin, j'aimerais juste t'encourager à prendre par la foi et à réaliser par la foi ce que Dieu veut faire dans ton cœur maintenant. Il dresse devant toi une table de bénédiction, remplie de mets et de nourriture pour rassasier ton âme. Peut-être tu es toi-même à Tsiglath aujourd'hui. Tu es comme David, oppressé de toutes parts. Oppressé d'un ennemi qui en veut à ton intégrité spirituelle comme à ton intégrité physique. Mais au travers de ce passage, je voudrais te rappeler que Dieu, non, ne va pas forcément dresser une muraille autour de toi, mais il dresse une table puissante, une table agissante qui peut aujourd'hui changer ta vie, changer ton cœur, renouveler tes forces physiques et morales. Pour t'amener vers la voie de la victoire. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur Jésus, alors que nous avons partagé simplement ta parole, tu veux vraiment inscrire sur notre cœur ce psaume 23 et cette réflexion en particulier autour du verset 5. Tu dresses devant moi, Seigneur, une table. Tu as préparé une table. Et ce n'est pas simplement une table, ce n'est pas une invitation à manger, mais c'est une invitation à manger avec toi. Dans un temps d'intimité, dans un temps de profondeur. Mais Seigneur, tu vas bien plus loin. Il y a tout un contexte qui est autour, qui nous échappe. un contexte qui est oppressif, un contexte qui nous accable, un contexte qui pourrait nous éloigner de toi. Et toi, dans ce contexte-là, tu dis « mange avec moi ». Mange avec moi. Mange les mets succulents que j'ai préparés pour ton âme. Parce que l'ennemi en veut à ton âme. Et David l'avait compris, il a pris certainement le temps de faire taire tout ce qui était autour de lui. Il s'est réfugié dans la présence de l'Éternel. Et il a participé au repas, à cette table dressée que Dieu avait préparée pour lui, en présence de ses adversaires. Aujourd'hui, tes adversaires sont nombreux, te parlent, te font peur. Ils profèrent des paroles de mort sur ta vie, ils profèrent peut-être des paroles qui te disqualifient. Ils pointent peut-être du doigt ta vie et ils font mal à ton âme. David avait compris que cette nourriture-là pouvait détruire son âme aussi. Dans ce passage-là, il nous invite à réaliser qu'une table à côté de cette table a été dressée. Une table que l'Éternel a dressée avec des mets. Une table sur laquelle l'Éternel se trouve. Et il veut t'encourager à participer à ce repas. Ce matin, je voudrais juste te rappeler, simplement, que Dieu a une provision dans ce temps particulier que tu vis. D'oppression peut-être spirituelle, de combat spirituel, de lutte. Dieu a une table dressée pour toi. Et qu'il serait peut-être dangereux pour toi de ne pas prendre ce temps, de ne pas réaliser la puissance de ce repas qu'il a dressé en présence de tes adversaires et de tes ennemis. Prends la pleine mesure de ce que Dieu veut faire par la foi. Ferme la porte de ta chambre dans ton tsiglat. Ferme la porte de ta chambre. Et tiens-toi là dans ta présence, dans la présence de ton maître et de ton Seigneur. Et alors que tu vas ouvrir ton cœur, Dieu va dresser une table devant toi, avec des mets succulents, pour restaurer ton âme, restaurer ton courage, restaurer ta volonté. Et ainsi, fortifié, tu pourras retrouver ou saisir les victoires qui sont à ta portée. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur t'encourage, que son nom soit béni et loué. Amen.